La Bible nous assure que le Créateur de l'univers est un Dieu d'amour et de miséricorde. Mais la Bible parle aussi de la vengeance de Dieu. De quelle façon le Dieu d'amour de la Bible est-il aussi un Dieu de vengeance? Nous voulons discuter cette question en continuant notre examen du livre des livres, la Bible. Dans cette émission, nous examinerons certaines prophéties intéressantes rapportées dans le livre de Nahum. Et nous le ferons dans notre habituel esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous. Ces émissions internationales vous seront présentées par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore et avec la coopération des amis de partout.
Merci Thomas. Le livre de Nahum est très intéressant et je vois que ta Bible est ouverte à cet endroit.
Oui Pierre, en effet la première phase du livre parle de la prophétie contre Ninive. Qu'est-ce que cela veut dire?
La prophétie contre Ninive, dans ce texte, traduit d'un mot hébreu, marque la condamnation de la cité de Ninive.
N'était-ce pas le peuple de Ninive qui se repentit quand le prophète Jonas lui fut envoyé par Dieu pour l'avertir de sa destruction?
Oui, mais à l'époque de Nahum, l'iniquité avait de nouveau atteint sa limite et la cité devait être détruite. Tandis que la plupart des livres de l'Ancien Testament adressent leurs avertissements à la nation d'Israël, la prophétie de Nahum fait exception. Son livre contient surtout une prophétie de condamnation contre l'ancienne cité des gentils, Ninive.
Pierre, n'est-il pas vrai qu'à travers les siècles, Dieu a permis au péché de s'épanouir presque sans entrave?
Oui, cependant, il y eut des cas où dans le passé, Dieu intervint, en détruisant des cités entières dont la dépravation était excessive.
Tu te souviens de Sodome et Gomorre?
Et la Bible explique qu'en détruisant Sodome et Gomorre, le Seigneur agit ainsi parce qu'il le trouvait bon pour leurs habitants.
Comment pouvait-il être bon pour les sodomites d'être détruits?
L'idée est qu'en leur permettant de vivre, leur dégradation aurait atteint un tel point qu'au temps de leur jugement à venir, il leur aurait été difficile ou presque impossible de se corriger et de marcher dans la voie de la justice. Apparemment, les Ninivites étaient tombés si bas dans le péché qu'il était préférable de mettre fin à leur vie par le sommeil de la mort jusqu'au moment du jugement général.
Mais Pierre, la Bible enseigne-t-elle qu'au temps du jugement à venir, des hommes tels que les Sodomites et les Ninivites auront vraiment l'occasion de se repentir et de se corriger?
Oui, le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 9, nous en donne l'assurance, car il est dit « Lorsque les jugements du Seigneur s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. »
Je l'admets, Pierre. Un tel point de vue augmente encore notre appréciation de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Mais comment harmoniser cela avec les sentiments qui sont exprimés dans le second verset du livre de Nahum?
Veux-tu lire ce verset, s'il te plaît?
Certainement. Il est dit, « L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. » L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde rancune à ses ennemis.
Veux-tu lire aussi le verset suivant?
Avec plaisir, voici. L'Éternel est lent à la colère et grand en force, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. L'Éternel marche dans le tourbillon et la tempête, les nuées sont la poussière de ses pieds. Pierre, quelle est exactement la pensée exprimée dans ces deux versets? Il parle de la jalousie de Dieu et de sa vengeance contre ses ennemis. Cependant, ils disent qu'il est lent à la colère et grand en force.
Le mot « jaloux » dans ce verset marque l'attitude de celui qui ne tolère pas de rival. Jéhovah est un Dieu de justice et d'amour, et ne peut tolérer l'injustice ou que ce soit de méchant dans son univers. Se venger de ses ennemis veut dire simplement qu'il les détruira. Ça ne veut pas dire que Dieu tourmentera ses ennemis, mais c'est simplement une autre façon dont la Bible se sert pour nous rappeler que la mort est le châtiment du péché.
Mais Pierre, le texte dit que Dieu est lent à la colère. Or cela s'accorde-t-il avec la pensée qu'il veut se venger de ses ennemis?
Dieu a permis au péché de régner sur la terre pendant plus de 6000 ans, presque sans intervenir. non parce que le pouvoir lui manquait pour l'empêcher, mais pour donner à la race humaine l'occasion d'apprendre par l'expérience les résultats redoutables de sa désobéissance à ses lois.
Cependant, Dieu détruisit les Ninivites, n'est-ce pas?
Oui. En quelques occasions, pendant le long règne du péché et de la mort, Dieu est intervenu en détruisant subitement des méchants trop dégradés, au nombre desquels furent les Ninivites. Nous pensons qu'il est raisonnable de conclure que, puisque le Seigneur a permis à l'un de ses saints prophètes d'annoncer son intention envers les Ninivites, son but fut de marquer ce fait comme une illustration de son dessein ultime de détruire tout péché et même la mort, qui est la conséquence du péché. Autrement dit, l'empire de Satan du péché et de la mort sera détruit au moment voulu par Dieu. Les versets 5 et 6 du premier chapitre semblent trop vastes pour s'appliquer seulement à une cité païenne. Veux-tu les lire, Thomas ?
Certainement, Pierre. Voici. Les montagnes tremblent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face et le monde et tous ses habitants. Qui subsistera devant son indignation et qui restera debout dans l'ardeur de sa colère ? Sa fureur se répand comme un feu et les rochers se brisent devant lui. Ce sont là, certes, de fortes paroles.
C'est vrai, mais elles ont presque entièrement un sens figuré. Dans notre examen des livres précédents de la Bible, nous avons appris que les montagnes et les collines sont des symboles représentant les royaumes et les gouvernements, et que le monde et la terre symbolisent ce que nous appelons l'ordre social. Le prophète nous dit simplement que c'est l'intention de Dieu de détruire tout l'ordre social du péché et de l'égoïsme.
Et c'est parce qu'un Dieu de justice et d'amour ne peut pas tolérer pour toujours l'existence de l'injustice. Mais Pierre, quel est le sens du 9e verset qui demande « Que méditez-vous contre l'Éternel ?»
La suite de ce verset dit que Dieu accomplira entièrement l'œuvre de l'affliction, qui ne permettra pas à la détresse de s'élever deux fois. Il semblerait que la question « Que méditez-vous contre l'Éternel ?» exprime le point de vue à peu près universel que le péché, la maladie et la mort forment les expériences normales de la race humaine, que ces maux ont toujours existé et qu'ils continueront indéfiniment. Ce point de vue déshonore le Seigneur parce qu'il implique que Dieu n'est pas intéressé au bien de la création humaine ou qu'alors il est impuissant à arrêter le règne du péché et de la mort.
Pierre, que veut dire l'assurance que la détresse ne s'élèvera pas deux fois?
La détresse à laquelle il est fait allusion ici semble être la souffrance et la mort qui furent la conséquence de la désobéissance de nos premiers parents en Éden. Par Jésus, la race humaine est rachetée, et quand le plan de Dieu sera accompli, elle sera rendue à la perfection et à la vie. C'est là le témoignage de tous les saints prophètes de Dieu.
Et à la lumière de ce témoignage, Pierre, je puis comprendre pourquoi Dieu a permis le mal, et je puis aussi comprendre pourquoi Dieu exercera son courroux pour la destruction de tout ce qui n'est pas en harmonie avec sa volonté sainte, par conséquent préjudiciable aux meilleurs intérêts de ses créatures humaines.
Et nous pouvons aussi être reconnaissants de savoir que le courroux de Dieu a pour but la destruction du mal et la mort des pécheurs incorrigibles, et non pas la punition d'une torture éternelle.
Pierre, c'est une grande satisfaction de savoir que la souffrance humaine ne durera pas toujours, que le péché, la maladie et la mort ne sont que temporaires et sont permis par Dieu, et que le moment viendra où le juste Créateur détruira ces maux. Je me souviens d'une belle promesse dans le livre des Psaumes qui dit « Alors que les pleurs durent une nuit, la joie vient le matin. »
Oui, et remercions Dieu pour ce matin de joie qui nous est promis, ce commencement d'un jour nouveau pour l'expérience humaine, quand tous seront l'occasion d'être libérés de la maladie et de la mort et de tous les maux qui tourmentent maintenant l'humanité en détresse.
Il est merveilleux et réjouissant d'avoir l'assurance du Seigneur que le mal ne s'élèvera pas deux fois. Pierre, en lisant le second chapitre du livre Nahum, je trouve une prophétie bizarre. Elle dit « L'acier des chars étincelle dans les rues au jour que je prépare, et les lances sont agitées. Les chars roulent avec furie dans les rues, ils se précipitent dans les places. À les voir, ils sont comme des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Qu'est-ce que cette prophétie veut dire?
Remarque Thomas, dans le texte que tu lis, Nahum parle du jour de la préparation de Dieu.
Que veut dire cela?
C'est une expression employée par les prophètes de la Bible, relative à une période précédant de peu l'établissement du royaume de Christ sur la terre.
Autrement dit, la période où se fait la préparation de ce royaume.
Oui, c'est cela. Aussi, comme Nahum le dit, en ce jour prophétique de la préparation, il y aurait des chars qui sembleraient des torches enflammées, et ces chars rouleraient avec furie dans les rues. « Allez voir, ils sont comme des flambeaux, dit le prophète, et ils courent comme des éclairs. »
Pierre, nous savons naturellement que le prophète Nahum n'a jamais vu un carrefour de rues mouvementées du XXe siècle. Il me semble qu'il a assez bien réussi à le décrire, surtout comme on le voit de nuit.
Bon nombre d'étudiants des prophéties reconnaissent que c'est exactement ce qu'il décrit. Tu te souviens qu'en examinant le livre de Daniel, nous avons appris une autre expression pour le jour de la préparation de Dieu. Il est parlé du « temps de la fin ». Et Daniel dit qu'au temps de la fin, beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. Nahum décrit simplement cette précipitation d'une autre façon. Mais la chose importante, c'est l'accomplissement de ces prophéties qui nous assure que nous sommes très près du moment où le royaume de Christ sera pleinement établi sur la terre. Ce fait est clairement exposé dans l'article appelé « Prophétie des temps actuels ». Thomas, veux-tu, je te prie, parler à nos amis de cet article « Notre jour dans la prophétie » ?
Avec plaisir, Pierre. Mes amis, l'article « Prophétie des temps actuels » est le quatrième d'une série qui passe en revue tous les livres de la Bible. Demandez ce quatrième livre de la série. Il examine les derniers six livres de l'Ancien Testament. Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Comment le Créateur peut-il être un Dieu d'amour et de miséricorde et aussi un Dieu vengeur? Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi l'innocent souffre-t-il et le méchant n'est-il pas puni? Habakkuk dit que l'enfer sera élargi. Que veut-il dire? Comment l'enfer peut-il être élargi? Et savez-vous qu'un jour l'enfer sera détruit? Savez-vous que l'équilibre instable dans les bourses du monde a été prédit dans la Bible? Et que c'est une autre preuve du moment crucial où nous vivons. Savez-vous que le rassemblement des nations pour des effets de coopération pour la paix et la guerre a été prédit dans la Bible? Que veut dire la Bible par l'expression « la fin du monde » ? Savez-vous que les gens de toutes les nations se convertiront au Seigneur après que le monde sera arrivé à sa fin ? Voilà quelques-unes des questions dont vous trouverez la réponse dans la revue Aurore, qui contient l'article « Prophétie de notre temps ». Demandez le petit livre « Prophétie ». Demandez simplement « Prophétie ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette étude de la Bible vous a été présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore en coopération avec les groupes d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous de nouveau la semaine prochaine. Dites-le à vos amis s'il vous plaît, et que Dieu vous bénisse tous.